15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous. Votre émission Santé et Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Pendant une heure, avec le docteur Jimmy Mohamed, nous tentons de vous informer sur les sujets de santé qui vous préoccupent. Et justement, comme tous les jours, il est à mes côtés dans ce studio. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire aujourd'hui, si vous avez du mal à envisager des vacances sereines après cette crise que nous venons tous de traverser, notre grand dossier du jour va vous intéresser. Nous recevrons Christophe Bourgois. Il se présente comme révélateur d'intelligence et il va nous aider à nous recentrer sur l'essentiel cet été pour être performant à tous les niveaux et surtout plus épanoui. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien, aujourd'hui focus sur un sujet beauté avec un spécialiste, notre journaliste Benjamin Lévesque. Il est parti pour nous à la chasse aux poils avec même un reportage à haut risque. Attention, dans cette chronique, une immersion dans une séance d'épilation au laser. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Et aujourd'hui, elle nous parlera, on continue à parler de poils, elle nous parlera de pilosité et de sexualité.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première question, c'est celle de Marvin.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, je voulais savoir pourquoi on appelait un calcul rénal et non pas un caillou, parce que en fait, ça a la forme d'un caillou. Et voilà, je voulais savoir pourquoi ça s'appelait comme ça. Merci pour votre réponse, bonne journée, au revoir.
Jimmy, les calculs rénaux, on en a déjà parlé dans cette émission. Et justement, pour vous répondre, Marvin, on a fait appel à un grand spécialiste, le professeur Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris. On écoute sa réponse.
C'est très simple, hein, parce que le mot calcul il vient du latin calculus. Et calculus, ça veut dire caillou. Pourquoi c'est un caillou? Tout simplement parce que c'est une matière minérale et qu'effectivement, ça peut avoir l'aspect d'un caillou avec la consistance d'un caillou. Alors, maintenant, quel est le rapport entre ce calcul qui est un caillou et le calcul mathématique? Il y en a un. Parce qu'en fait, ces calculi qui ont donné en fait le nom au calcul mathématique, c'est tout simplement parce qu'on se servait des pierres pour compter. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Les bergers, par exemple, eh bien, ils avaient un petit pot à l'entrée de la bergerie et ils mettaient un petit caillou dans le pot à chaque fois qu'un mouton entrait pour être sûr qu'ils n'avaient pas perdu de mouton. Et on s'en est servi pendant longtemps pour tenir des finances. Voilà, donc ça a un double sens, de calculi caillou, effectivement, puisque c'est un caillou, et de calcul.
Écoutez, on a les précisions du professeur Deray au micro de Benjamin Lévesque avec de la science et même un peu d'histoire.
Ouais, c'est passionnant, c'est chouette, c'est toujours,
hein, toujours. Très ludique. Jimmy, le calcul, juste pour terminer sur ce sujet, donc si ça cause en général la colique néphrétique, on est d'accord, c'est quelque chose comme qui se soigne. Hein,
oui, bien. C'est un des diagnostics les plus gratifiants d'ailleurs quand on est médecin, c'est lorsqu'une personne a une crise de colique néphrétique, elle souffre terriblement, fait une injection
d'anti-inflammatoire. Quand vous arrivez déjà dans l'appartement,
oui,
on est content.
Dans la fesse, et là, au bout d'une ou deux minutes, c'est quasi instantané, le patient est soulagé. Et donc, on apparaît comme de véritables héros, ça fait du bien. Mais c'est lié au fait qu'on va dilater un petit peu les voies urinaires et le calcul va pouvoir passer et on est soulagé. Ce n'est pas simplement un traitement contre la douleur, c'est le traitement du calcul.
Merci beaucoup, Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois-ci, c'est celle de Maëva, 36 ans. On écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je vous appelle aujourd'hui parce que ma fille fait des otites à répétition et donc le médecin va prochainement lui poser des yo-yo, chose que je ne connaissais pas. Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez, est-ce que c'est efficace, est-ce qu'elle va devoir les garder toute sa vie. Merci pour vos réponses, bonne journée.
Alors Jimmy, les yo-yo, donc ça peut être la solution pour les enfants qui font des cas d'otite chronique. C'est quoi d'abord un yo-yo? Est-ce que ça a un rapport avec le jouet là, yo-yo?
Il y a d'air parce que ça y ressemble, on appelle ça des aérateurs transtympaniques. Alors l'idée est plutôt simple, dans les fosses nasales, vous avez une trompe qui s'appelle la trompe d'Eustache qui relie le nez à l'oreille moyenne. Lorsque l'enfant est enrhumé, les sécrétions vont parcourir cette trompe et vont infecter l'oreille dans cette oreille moyenne. Et normalement, à l'état normal, l'oreille moyenne est vide, il n'y a que de l'air. Or, les sécrétions vont rentrer, ça va développer l'otite et le but des aérateurs, c'est de créer un passage entre l'oreille moyenne et l'oreille externe pour évacuer le liquide qui peut stagner et éviter les otites lorsque l'enfant est enrhumé.
D'accord. Alors comment ça se pose? Ça se fait sous anesthésie générale, je crois.
Oui.
Est-ce qu'il faut rester à l'hôpital? Est-ce que c'est quelque chose de simple et dans la journée, l'enfant rentre à la maison?
Alors c'est une intervention qui se fait en ambulatoire sous anesthésie générale. Ça dure une quinzaine de minutes. C'est très peu invasif.
Oui, c'est rapide quand même.
Et puis l'enfant rentre à la maison quasiment sans aucune douleur et surtout c'est plutôt très efficace.
D'accord. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre là si on se fait poser par exemple les yo-yo à cette période? Il y a l'été, les baignades. Est-ce que c'est contre-indiqué?
Alors effectivement, ça pose problème un peu en été puisque à ce moment-là, on ne peut pas se baigner, on peut prendre la douche normalement, on peut se baigner mais sans mettre la tête sous l'eau.
Ou avec des bouchons peut-être, non ?
Exactement, ouais. Et dans ces cas-là, si les enfants veulent absolument, on peut mettre des bouchons d'oreilles qui permettent d'éviter d'avoir l'eau qui pénètre à travers de l'aérateur, parce qu'à ce moment-là, bah, c'est contre-indiqué.
D'accord, et elle le posait la question, justement, cette maman, Maëva, elle demandait est-ce que sa fille allait devoir les garder toute la vie, les yo-yos ?
Non, on les garde de quelques mois à quelques années, jusqu'à deux ans maximum, parfois, ça dépend des types de yo-yos. Il y a des yo-yos qu'on va garder un peu moins d'un an, et parfois ils tombent tout seuls. D'ailleurs, je me demande vraiment où est-ce qu'ils tombent, parce que moi, je n'ai jamais récupéré.
Ouais.
Et puis certains qu'on peut garder deux ans, et c'est des yo-yos un peu différents. Et dans ces cas-là, c'est l'ORL qui les retire, et parfois au bloc opératoire, et aussi sous anesthésie générale.
C'est très efficace ou pas ? Est-ce qu'on est content de ce dispositif
c'est
en général ?
C'est très efficace, ouais. À la fois sur l'enfant qui va faire des otites à répétition, des otites purulentes, plus de 5 à 6 épisodes. Souvent, dans le même temps, on pratique aussi l'ablation des végétations, où l'on enlève les amygdales, quitte à vous faire une intervention, autant régler le problème. Et puis, derrière ça, l'enfant, parfois, on met les yo-yos, car l'enfant a des otites séreuses, des otites à bas bruit chroniques, qui vont entraîner une baisse de l'audition. Et qui dit baisse de l'audition, dit trouble du langage. Et à ce moment-là, l'enfant récupère de l'audition et donc développe mieux son langage.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Maëva, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir notre invité, ce sera Christophe Bourgois pour une émission autour du développement personnel. Lui, il se présente comme un coach révélateur d'intelligence. Il va nous aider à être plus performants cet été, à être mieux dans nos baskets et même peut-être à se servir de ce qu'on vient de traverser pour être au top dans les mois qui viennent. On en parle dans quelques minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors à présent, nous allons accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, Christophe Bourgois. Bonjour.
Bonjour beaucoup. Bonjour Mélanie.
Christophe, vous êtes donc coach révélateur d'intelligence et auteur du livre Les secrets de vos 10 intelligences pour illuminer votre vie et celle des autres aux éditions First.
C'était le prochain livre qui devait sortir il y a un mois, mais donc qui est postponé à janvier 2021.
D'accord.
Et vous avez entre les mains, donc vous êtes 10 fois plus intelligent que vous l'imaginez.
Ouais, toujours 10. Hein.
Qui est chez First et qui est passé chez Poche. Mais c'est toujours 10, effectivement.
Très bien. Alors pour ceux qui ne vous auraient pas entendu, on vous a invité pendant le confinement. Alors c'était en ligne, nous-mêmes on était chez nous, et vous chez vous j'imagine. On vous avait invité et vous nous aviez, et vous vous présentez toujours comme ça, et c'est pour ceux qui ne l'ont pas écouté, assez étonnant, vous vous présentez comme révélateur d'intelligence. Ça intrigue quand même comme titre, forcément. Vous n'aimez pas le terme coach de vie, c'est quoi un révélateur d'intelligence ?
Un révélateur d'intelligence, si vous voulez, nous venons toutes et tous au monde avec 10 intelligences logées dans le cerveau. Et il se trouve que, lorsque vous venez au monde, la pression des parents, sacraliser l'école, la pression du boulot, la pression d'un couple, fait que, petit à petit, on s'enferme dans une monoculture. Et on oublie ce qui on était. On oublie que, par exemple, à l'enfance, on adorait la musique. On oublie que, par exemple, pendant l'enfance, on adorait la sculpture. On oublie, par exemple, que pendant l'enfance, on avait une intelligence qu'on appelle spatiale, qui est logée dans le cerveau comme les neuf autres, qui était qu'on se repérait facilement dans une forêt, ou qu'on savait très très bien comment retrouver son chemin. Alors que maintenant, on va prendre des outils de géolocalisation et on va s'avilir d'une certaine manière. Donc, je suis contre cette espèce de cartésianisme à la française et de pensée unique qui nous fait croire qu'on est dans une monoculture. Et ça va très loin parce qu'en fait, c'est la course à la monoculture. Et donc, si vous ne suivez pas, vous êtes mis au banc. Alors que vous êtes 10 fois plus intelligent et intelligente que vous le pensez.
Jimmy, ça vous plaît, hein ? Vous êtes encore plus intelligent que vous pensiez déjà.
Eh oui, c'est dire mon niveau d'intelligence. Mais les gens qui viennent vous voir, ils ont quel type de problème ? C'est des problèmes plutôt personnels, professionnels ? Et en combien de séances on peut essayer de les régler ou au moins les améliorer ?
Alors, déjà, c'est une très bonne question, Jimmy. Le problème du coaching en France, c'est que c'est un terme qui est complètement galvaudé. D'ailleurs, on le voit bien, vous écoutez Canal ou je ne sais quelle radio, il a coaché machin à la 54e minute et il l'a sorti d'un terrain. C'est pas ça le coaching. Le coaching, c'est un art ancestral. En fait, c'est issu, si vous voulez, de la manière d'une carriole latine. C'est l'art d'accompagner le terrain pour la personne qui est d'à côté. S'il y a un coach, en aucun cas il ne donne des conseils.
Ah, d'accord.
Ça, c'est un mentor. Et c'est le drame. Parce que je coach par exemple un champion de tennis. Si son entraîneur, qui se dit coach, a réussi parce qu'à un moment donné il montait à la volée, il va dire à son champion, mais monte à la volée. Ça, c'est du transfert, c'est de la projection. Et donc, il y a tout un tas de gens qui s'improvisent coach parce que probablement ils rament au boulot, etc. Alors qu'un coach ne doit surtout pas faire de la projection. Un coach, c'est l'écoute. Donc c'est un chemin, Jimmy, qui dure 10 séances en moyenne, entre 10 et 12 séances, à la frontière de la psychothérapie, certes, parce qu'on est obligé de parler de l'enfance, mais dès qu'on sent qu'on dépasse ce cadre, on n'outrepasse pas notre droit. Mais l'idée, c'est, vous venez, et je vais vous dire comment ça va, Jimmy, avec quoi vous venez, quelle est votre question. Et ce qu'il y a de génial, c'est que la réponse est à l'intérieur de la question. Et pendant 10 séances, on va travailler autour de ça. Comme une, chercher une pépite, si vous voulez. Et on va s'appuyer sur les autres intelligences. Et je vais vous voir faire. Je vais voir si, par exemple, vous observez les tableaux qu'il y a chez moi, dans ma maison atypique du 17e. Je vais voir si vous parlez cuisine. Je vais voir si vous chantez. Et là, je vais vous dire, mais Jimmy, pourquoi vous avez oublié tout ça? Pourquoi la monoculture vous a fait oublier tout ça? Alors que les 650 personnes que j'ai interviewées, les 650 champions, de Rafa Nadal en passant par François Pinault, Marinette Pichon, tous ces gens-là, ils ont réussi en développant des intelligences très éloignées de ce qu'on leur prête.
Justement, vous intervenez auprès de qui en tant que révélateur d'intelligence? C'est que des gens très 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 intelligents, donc ça n'a rien à voir. C'est
ça quoi, n'a rien à
ils viennent avec quoi comme problème les gens qui
mais
viennent
ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Là, en ce moment, il se trouve que j'ai beaucoup de politique. Donc j'ai un député, j'ai un président de région, un président de département et un maire. J'ai souvent des cadres, soyons clairs, j'ai souvent des cadres qui se posent des questions. On ne peut être coaché qu'à partir du moment où on a décidé de changer. Genre, je vous appelle de la part de machin parce qu'il paraîtrait que... Moi, je ne prends pas les gens, parce que ça ne marche pas. À un moment donné, si vous voulez, vous êtes venu au monde, vous aviez une image du monde, et puis très vite, vous êtes mis un masque, ce fameux masque. Et par rapport à ce masque, vous avez pris des réflexes. Mais ce n'est pas vous. Donc, il y a les gens, à un moment donné, qui vont se dire « Waouh, mais qui je suis vraiment ? Et qu'est-ce qui me meut, en fait ? Qu'est-ce qui me rend heureux ?» Et il y aura les autres.
Jimmy ?
Parce que quand on parle d'intelligence, ici, on a l'impression qu'il faut être bon à l'école, bon en mathématiques, et qu'il n'y a finalement que ça. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme intelligence ? La cuisine s'en fait partie, par exemple ?
Jimmy, c'est tout le drame. Effectivement, vous avez l'intelligence relationnelle. Ce que vous avez sur ce plateau, c'est une intelligence logée dans le cerveau. Vous avez l'intelligence logico-mathématique. Elle nous embête un petit peu, parce qu'effectivement, c'est la cartésienne. Mais vous avez l'intelligence kinesthésique, c'est par le corps qu'on ressent. C'est toutes les émotions sont logées dans le corps. Mais c'est celle du petit chirurgien, de la petite couturière. Moi, par exemple, j'étais nul en maquette. J'adorais, j'étais baba devant les gens qui savaient faire des... Celle du chirurgien, du médecin qui palpe. Vous avez l'intelligence visuelle spatiale.
On va les détailler après, effectivement.
Okay. Mais il y en a 10.
10 carrément.
C'est génial comme trésor de vie.
Et vous dites, vous, la monoculture, vous ne l'aimez pas, vous me l'avez déjà un petit peu expliqué, mais en France, on a particulièrement ce problème. Il y a des pays ou des sociétés où c'est vraiment très différent de chez nous.
Ah, mais en France, on a vraiment cette culture d'abord de la monoculture, héritage de Descartes, héritage d'un pays où il faut compter les grains, où les data et les chiffres ont une importance. Et puis, on a un pays de caste. Vous avez fait les grandes écoles ou vous n'avez pas fait les grandes écoles. Il y a quand même, c'est une spécificité très française. Hein. Moi, je me souviens, j'ai fait une école, c'est peut-être l'école là, d'ingénieurs haut de gamme, mais la plus cool, c'est l'agro. Et je me souviens, un jour, j'avais fait mon premier stage chez un paysan. Alors moi, j'étais ingénieur agro, donc le roi n'était pas mon cousin, hein, mon égo tout de suite, le boulard. Et je vois Maurice sortir à 11h du soir. Je lui dis, mais Maurice, mais qu'est-ce que tu fais à 11h du soir, là, sorti avec ton tracteur? Il dit, bah, c'est la pleine lune, mon gars. Je lui dis, ah bon, et alors? Il dit, bah, moi, je vais semer. Je lui dis, mais pourquoi à 11h, viens, on va faire un party card. Mais on t'a pas appris ça, l'agro? Si je sème à la pleine lune ascendante, j'aurai 15% de rendement en plus. Ça, c'est de l'intelligence.
Christophe Bourgois, on ne fait que commencer cet entretien qui s'annonce déjà passionnant. Vous restez avec nous. Europe 1. Dans un instant, nous continuons donc cet entretien dans son rendez-vous pour cette dernière émission de la saison. Nous vous donnons des pistes de développement personnel pour cet été, pour les vacances. Comment mettre à profit notamment ces intelligences un peu différentes qui ont émergé parfois de nous durant l'épidémie. On parle de notre santé, on parle de votre santé, de votre bien-être dans cette émission. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, c'est vous Christophe Bourgois, vous êtes coach révélateur d'intelligence et donc aujourd'hui, vous allez nous aider à mettre la main sur ces multiples intelligences que nous avons en nous. On en a déjà abordé quelques-unes, mais parfois on en a donc de ces intelligences, on en a 10 selon vous. Et on a parlé de l'intelligence kinesthésique, on a parlé de l'intelligence linguistique et là on va passer à l'intelligence visuelle. Là vous dites, on lâche son téléphone, on part se perdre en forêt.
Mais bien évidemment, puisqu'on a de toute manière, on a ce repère dans la tête. Il faut absolument arrêter tout ce qui est logiciel pour se repérer.
Non mais moi je me perds, si je ne le fais pas. Si je veux bien partir en forêt, je vais adorer ça, mais je risque de perdre mon chemin.
Ma chère Mélanie...
J'ai un sens de l'orientation d'huître, je dirais à peu près.
Parce que vous avez des milliards de neurones, vous étiez avant Homo sapiens sapiens, en sortant de la grotte, vous saviez parfaitement que vous repérez, vous ne l'avez pas perdu. C'est juste un petit exercice.
Jimmy.
Et vous dites qu'il y a aussi l'intelligence naturaliste. Qu'est-ce que c'est? C'est redécouvrir les produits de notre terroir. Qu'est-ce que c'est?
Alors, l'intelligence naturaliste, c'est l'intelligence donc de la nature, de ce qui nous environne, dans tous les sens du terme. Donc, effectivement, il y a les plantes, le terroir. Donc là, c'est juste génial. On va rester en France. Allons voir notre terroir. C'est quand même juste sensationnel ce qu'on a en France. Non, mais il faut avoir été dans le monde pour se rendre compte de la beauté des Alpes, des Pyrénées.
Vous avez beaucoup voyagé, mais vous nous parlez de la France comme d'un bijou. Moi,
Mais c'est un bijou. Je vais même vous dire, je vais faire hurler des auditeurs, je ne comprends même pas qu'on ne paye pas quand on se balade sur le GR20. Vous voyez, moi je suis moitié Corse, je me dis c'est un tel joyau qu'on devrait payer. Ça créerait de l'emploi, on pourrait mettre des dans les poubelles, on pourrait le maintenir propre. Donc l'intelligence naturaliste, c'est tout ça. Et dans l'intelligence naturaliste, il y a un truc qui est sensationnel, c'est la manière de s'alimenter. Le bon sucre. Arrêtons de consommer des produits qui ne sont pas de saison. Je suis très ami avec Alain Passard et il a totalement raison. Consommons les produits. Les tomates, c'est pour maintenant. Il y a de l'eau dedans. C'est pour qu'on s'humecte, etc. Il y a des choses formidables à faire avec les tomates.
L'intelligence naturaliste, elle est aussi dans notre assiette. C'est-à-dire que manger de la façon que vous êtes en train de décrire, ça nous rend plus intelligents aussi.
Mais bien évidemment, pourquoi?
Parce qu'on sait que ça nourrit l'organisme de façon physique,
Justement, voilà, vous avez, je vous mets 20 sur 20. La volonté, c'est comme une poche, d'accord? Et la volonté, ça se gonfle grâce au bon sucre. Si vous prenez des sucres de synthèse, ça ne marche pas. Donc imaginez une poche de volonté. Vous levez le matin, vous nourrissez, la poche est complète. Vous tirez dessus, je me concentre, je fais des exercices, blablabla. Et à un moment donné, vous videz cette poche. Et là, le stress arrive. Pas de self-control, rien. Plus vous mangez des trucs, des sucres rapides, moins ça fonctionne. Si vous prenez des fruits de saison, si vous prenez des sucres lents, vous avez cette poche qui se remplit en permanence. Donc, vous avez nettement moins de stress, beaucoup plus de self-control. C'est pour ça que les Anglais sont les rois du self-control. Parce qu'ils bouffent tout le temps des petits pois, des œufs... du bon sucre. Et on parle du self-control comme ça, c'est du bon sucre.
Jimmy.
Une autre intelligence, l'intelligence existentielle. Cet été, on risque de partir pas très loin, peut-être qu'en famille, mais c'est peut-être la quête du sens, retrouver les liens qu'on peut avoir et pas forcément de partir à l'autre bout du monde, sur des plages ou autre, juste des vacances simples.
C'est pour moi l'intelligence qui a été la plus mise en évidence. Et abîmée. Parce qu'effectivement, on était paralysé par la mort. Mais la vie, c'est pas la mort. La vie, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est les intelligences, c'est bien se nourrir, c'est partager, c'est l'accolade, c'est les gosses, c'est la vie, quoi. On est là, on est issu des guerres, des enfants cachés, des enfants non-dits, on a traversé des millions d'années pour être là, et on voudrait en plus être obnubilé par la mort et quitter ce qu'on est. Et au contraire, il faut se retrouver par rapport à ça. Et cette intelligence existentielle, je suis très proche là-dessus de ce que pense Comte Sponville quand il dit mais cette focalisation sur la mort nous a oublié de voir la vie. L'intelligence existentielle, c'est ça. Qui suis-je,
Jimmy?
Une autre intelligence qui est probablement ma préférée, c'est l'intelligence temporelle, puisque vous dites qu'il faut faire la sieste. Et pour quelle raison?
Ça m'étonne pas, ça.
Il faut faire la sieste parce qu'en fait, si vous voulez, depuis que nous sommes Homo sapiens sapiens, notre cycle du temps et du sommeil passe par trois phases. Le matin, je me réveille, je suis extrêmement bon pour faire des activités rationnelles. Que vous soyez au Pérou, au Chili ou dans le Kurdistan, c'est le matin. C'est
les
ça.
Enfants à l'école aussi, on le sait, hein, c'est là qu'il faut faire le français, les mathématiques, ils sont plus performants.
Entre 14h et 16h, il ne faut surtout pas faire de tâches rationnelles.
Zut, on est en pleine émission, donc c'est pas...
C'est l'époque du lâcher-prise, de la co-construction, de l'intuition, intuitio, ce qui vient de l'intérieur.
Alors, une émission santé-bien-être à 15h, c'est bien ou pas, pour l'intelligence?
De la manière dont vous l'animez, oui, puisque, vous voyez, on est dans la créativité, on n'est pas dans quelque chose de cadré. Donc, vous avez totalement raison. Donc, jusqu'à 16h, on est plutôt dans l'heuristique, dans l'intuition. Et ensuite, pic-creux, donc ça c'est le creux, rebond. Donc, quand on fait la sieste, le fameux Nappuccino, vous prenez un café, la caféine met 27 minutes à intervenir dans le corps, vous vous allongez, tous les grands champions, hein, font un cappuccino. Au bout de 27 minutes, vous réveillez, vous êtes plein badin, et vous êtes là pour pouvoir imaginer. Et le soir, il y a ce qu'on appelle les oiseaux de nuit.
On va terminer sur l'intelligence relationnelle. Moi, celle-là, je l'aime beaucoup. Jimmy, il aime la sieste. Moi, j'aime parler aux gens. On va apprendre à communiquer avec le regard, parce que c'est là, relationnel, il a pris cher quand même. Là, en ce moment, on porte tous des masques. Enfin, il faut continuer à en porter, notamment dans les lieux clos. Comment on va s'organiser pour la suite, pour que cette intelligence relationnelle continue d'exister?
Alors, déjà, l'intelligence relationnelle, elle existe de facto, puisque malgré le télétravail, malgré tout ce qui se passe, tout le monde la demande. C'est même un ermite a une intelligence relationnelle. C'est, on relationne avec soi-même et l'autre est le miroir de ce que nous sommes. Donc on en a fondamentalement besoin. Et il y a un exercice magnifique qui s'appelle le moment doux. Faites-le pendant les vacances. L'un se met en face de l'autre. Et quand c'est votre tour, Mélina, vous dites « Ok, je vais t'envoyer tout mon amour au travers de mon regard. » L'autre ne dit rien. Et pendant une demi-heure ou 10 minutes, vous lui envoyez de l'amour. Après, c'est à l'autre de le faire. Vous ne pouvez pas savoir tout ce qui se passe par le regard.
Je pense qu'on a un bon exercice pour démarrer les vacances en douceur. Merci beaucoup Christophe Bourgois d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ces ressources que l'on a en nous, comment les mettre à profit, toutes ces intelligences, je rappelle le titre de votre livre. Vous êtes 10 fois plus intelligent que vous l'imaginez, aux éditions First. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, focus sur un sujet beauté avec un spécialiste, notre spécialiste, notre journaliste Benjamin Lévesque. Il est parti pour nous à la chasse aux poils avec même un reportage à haut risque. Attention, dans cette chronique, une immersion dans une séance d'épilation au laser. Restez avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, il est temps de vous faire du bien, de prendre soin de votre apparence avec vous, Benjamin Lévesque. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Dans cette chronique beauté, vous avez décidé aujourd'hui de parler de poils.
Oui, ils ont de super racines ces poils. Mais allez-y.
Vous êtes prêts?
Oui. Colastal p***erlé. T'es charonne. Oh, je te déteste crevure.
Aïe, 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 oui, quand on se débarrasse de ses poils, eh bien, ça peut faire très mal. Et puis, eh bien, l'inconvénient, c'est que ça repousse, donc il faut souffrir comme ça tous les mois. Alors, l'une des solutions, eh bien, c'est justement l'épilation définitive au laser. Le principe, c'est quoi? Le laser, c'est une lumière très puissante qui se transforme en chaleur et qui va brûler, qui va détruire le bulge. Et ce qui veut dire que les cellules qui fabriquent le poil, eh bien, sont éliminées. Alors, pour avoir une idée de comment ça se passe, j'ai assisté à l'épilation laser de Chloé. Elle a 29 ans et elle en avait ras-le-bol de ses poils au niveau des aisselles.
Bonjour Chloé.
Bonjour docteur.
Donc aujourd'hui, on est à la 6e séance, c'est ça?
Exactement, 6e.
Bon, on va commencer l'épilation, on va juste vérifier. Vous n'avez pas pris de soleil, vous n'êtes pas bronzé du tout. Très bien, ok. Mais vous allez vous allonger, mettez vos lunettes. Et puis on commence tranquillement. Vous avez rasé vos poils hier soir?
Oui, hier soir.
Docteur Netter, vous vous dites qu'on met des lunettes. Ça sert à quoi justement ces lunettes?
Alors ça, c'est un point qui est vraiment très important. Les lunettes sont indispensables avec un laser. Si vous tirez dans l'œil, par mégarde, évidemment on ne le fait pas, sans lunettes, vous pouvez être aveugle.
On y va Chloé?
Oui, je suis prête.
Bon Chloé, la réponse que tout le monde attend, ça fait mal, qu'est-ce qu'on ressent finalement?
Alors, on ressent des petits picotements, ça fait un petit peu mal, mais pas plus que quand on fait une épilation à la cire. Bon ben voilà Chloé, je pense qu'il n'y a pratiquement plus de poils, il est possible qu'il faille une dernière séance. Vous raserez vos poils et vous attendrez le moment où vous n'aurez plus du tout de bronzage pour venir faire votre dernière séance, ça vous convient?
Très bien, je viendrai je pense en octobre, quand je serai plus bronzée.
Merci docteur. Bonnes vacances.
Voilà, et si Chloé a décidé de faire cette épilation sous les bras, eh bien sachez que vous pouvez le faire sur toutes les parties du corps, excepté le visage. C'est du duvet, donc ça ne fonctionnera pas.
Benjamin, est-ce que tout le monde peut le faire ou est-ce qu'il y a un type de peau chez qui ça fonctionne mieux qu'une autre?
Alors, il faut savoir que si vous avez les poils blonds ou roux, comme vous,
Mélanie,
c'est
foutu pour moi, quoi.
C'est foutu, il va falloir renoncer à l'épilation laser.
Garder la cire, alors.
Vous allez continuer à souffrir. En fait, pour que ce soit efficace, il faut que le contraste soit important entre le poil et la peau. Alors, pour faire simple, plus le poil est épais et foncé, sur une peau claire, plus le résultat sera meilleur.
C'est loupé pour vous aussi, Jimmy, parce que vous êtes brun sur brun, donc ça marche pas.
Vous n'avez jamais vu mes poils, donc je ne vois pas de quoi vous parlez.
Et dernier petit détail, si vous avez un tatouage, là c'est une contre-indication parce que le laser, il ne va pas faire la différence entre le poil et l'encre du tatouage, donc il va le brûler. Donc ce que le dermatologue ou le médecin esthétique peut faire, eh bien, c'est de contourner le dessin. Mais vous aurez toujours des poils sur le tatouage et c'est la même chose pour les grains de beauté. pas de laser dessus.
Un joli petit tatouage poilu, c'est mignon. Jimmy, à vous.
Et Benjamin, combien de séances et combien ça coûte surtout?
Alors, il faut en moyenne entre 6 et 8 séances. Ça peut varier selon votre pilosité. Pour vous, Jimmy, il en faudra peut-être 15. Le prix, c'est souvent le frein, ça coûte très cher. Plus la surface à épiler est importante, plus c'est cher. Par exemple, les aisselles en moyenne, c'est 80€ la séance. Mais pour les jambes, eh bien, ça peut monter entre 150 et 300€ la séance.
400 en moins pour Jimmy. Benjamin, il existe aussi la lumière pulsée. Parfois, on voit ça chez les esthéticiennes. Là, comment ça fonctionne et c'est quoi la différence avec le laser finalement?
Alors, c'est comme si vous vouliez faire un Paris-Marseille avec d'un côté une Formule 1 et de l'autre une 4L. En fait, dans tous les cas, vous allez y arriver. En fait, ça sera beaucoup plus long avec la lumière pulsée, comme l'explique la dermatologue Laurence Netter.
Pour la lumière pulsée, si vous avez une machine médicale de très bonne qualité, on va arriver à peu près à la même efficacité qu'un laser. C'est un petit peu plus long. Le problème, c'est que de temps en temps, les lumières pulsées affinent le poil. Alors, on a l'impression que ça marche très, très bien. Mais en fait, le poil, il est toujours là. Il est de plus en plus fin. Alors qu'un laser, il faut que, quand le poil est suffisamment épais, le poil, il part en une fois. Si on répète les séances, c'est pour avoir d'autres poils à la séance suivante.
Et un dernier mot sur la lumière pulsée, c'est quelque chose qui se fait en cabinet ou dans un institut de beauté. En revanche, on déconseille d'acheter un épilateur à lumière pulsée en magasin parce que, comme me l'expliquait cette spécialiste, eh bien, la lumière de ces appareils n'est pas assez puissante pour une épilation définitive.
Bien, merci beaucoup Benjamin pour tous ces conseils.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission et même de la saison, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux. Eh bien oui, la dernière de la saison.
Bon, peut-être d'autres aventures bientôt.
Voilà. Mais en tout cas, un bel été devant.
Allez, aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette question d'Anne. Je vous la lis. J'ai demandé à mon copain de se couper les poils pubiens l'autre jour, mais il refuse au nom de la virilité, soi-disant. Ce n'est pourtant pas très beau et parfois gênant pour le sexe oral. Comment lui faire comprendre que ça me dégoûte et qu'il pourrait les couper? Alors Catherine, bon, je ne sais pas, elle a un avis très tranché, lui en a un autre. Comment on trouve un terrain d'entente? Il peut couper qu'à moitié, je ne sais pas.
Je crois que, alors d'abord, il faut comprendre quel est le problème avec les poils. Il n'y a pas de problème dans l'absolu, si ce n'est dans l'imaginaire. Pourquoi le poil est perçu à certaines époques comme étant gage de toute virilité et de puberté, hein, puisque c'est le poil de la puberté. Donc, pourquoi à un moment on accueille cela et pourquoi à une autre époque, la nôtre, on a tendance à dire, à crier à haro sur le baudet, comme si c'était sale, comme si ça n'était pas recevable dans la sexualité, comme si ça empêchait la sexualité ou empêchait de voir clairement les sexes que nous voulons voir clairement. Voilà. Bon, moi, je crois que
de toute façon, on lui refuse, hein, au nom de la virilité, soi-disant.
Voilà, parce que lui, effectivement, il y voit quelque chose qui est ce qui le distingue de l'enfant, de la femme et de l'enfant, et
que donc, du coup, les femmes ont des poils, hein, bien sûr.
Oui, mais souvent très épilé, voire pas du tout. Donc, évidemment, il veut une distinction, et ça, on peut l'entendre, on peut le comprendre.
Jimmy ?
Il dit au nom de la virilité, mais au nom de la propreté, il pourrait faire un effort. Parce que autant on peut comprendre qu'il ne veut pas ce sexe voilà, complètement imberbe, comme on peut le voir dans la pornographie, ramenant une image d'enfant. Mais là, on peut comprendre de faire un petit effort. À l'époque,
il y avait des broussailles.
Il n'y avait pas de crème épilatoire. Il y a des tondeuses, donc il peut quand même ajuster la chose, surtout que c'est pour sa partenaire.
C'est une relation,
c'est donnant-donnant, donc c'est pas dans un seul sens.
Oui, je crois qu'on peut s'amuser à se dire, à essayer, surtout que tout ça repousse, donc évidemment, voilà, on peut tout simplement...
Et puis ça se trouve, lui, il est exigeant sur la pilosité de sa partenaire aussi, parce que parfois, on va avoir des hommes
peut-être
qui vont... peut-être qu'il ne l'est pas.
Il ne l'est peut-être pas, parce qu'il y a des hommes qui, au contraire, aiment les femmes qui sont très poilues.
Ah oui.
Il n'y a pas que dans les années 70, ça existe encore.
Dans les années 30, peut-être. Voilà, c'est la dernière.
C'est la dernière.
Le fait est que, oui, peut-être qu'on peut s'amuser à dire oh, « Mais non, mais moi, je ne comprends pas pourquoi tu me dis ça. Trouvons un compromis. » Je crois que ce qui est important pour lui, c'est de signifier une différence de genre. Donc, à notre époque, on aurait tendance à vouloir des genres identiques. Eh bien, je trouve que c'est assez recevable. Maintenant, au nom de la propreté, dites-vous, je pense qu'un être qui se lave est un être qui se lave et les poils ne sont pas sales de ce point de vue-là. On n'a pas à s'inquiéter du poil. C'est plutôt une idée que l'on on se fait du poil, comme si c'était noir, c'est sale, c'est la peur.
Ah, vous dites vous-même, vous dites c'est sale.
Non, mais c'est ça, mais on dit c'est noir, donc c'est sale, oui, 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 machin, etc., par rapport au propre, à l'imberbe, etc.
Non, sinon, elle peut lui couper quand il dort. Non, je rigole.
Non.
Elle fait de drôles de choses, la Mélanie.
Alors là, si on veut lui faire une angoisse de castration, c'est une idée.
Non, c'est une blague. Non, c'est la dernière, voilà. On dit n'importe quoi, bien sûr.
Est-ce que vous avez un avis sur la question, Mélanie?
Non, aucun avis. Catherine, excusez-moi, je vous laisse terminer.
Non, donc ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas au nom de la propreté, c'est au nom du compromis du couple, puisque lui-même peut avoir aussi quelques exigences. Il préférera qu'elle ait une coupe au carré ou une coupe des cheveux longs, il préférera qu'elle ait les cheveux frisés ou les cheveux raides, alors qu'elle peut-être se préférerait autrement. Donc s'essayer un peu au goût de l'autre sans se trahir ou s'abîmer, c'est plutôt une chose intéressante.
Jimmy a un drôle de sourire, allez-y, je
non,
sais
mais
pas.
J'ai le souvenir qu'on avait reçu le professeur Desgrandchamps qui nous disait que si on s'épile le sexe, il a l'air plus gros. Donc,
ah bah
d'un
oui,
côté,
techniquement, il devrait tenter.
Voilà, alors peut-être
ouais,
à moins qu'il
vrai.
Soit formidablement gâté par la nature et qu'on bien lui fasse. Mais,
vous lui donnez un conseil, là. Hein.
Oui, on va pas dire qu'on n'a jamais trop, mais là, ça peut être un argument qu'elle peut
c'est
lui donner.
C'est sûr, il aura du plaisir à découvrir un peu plus
Jimmy
son sexe.
Jimmy répond un peu aux auditeurs maintenant, lui-même. Ouais. Hein, il a des
c'est
astuces.
Ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai que ça peut être une occasion. En tout cas, on peut lui vendre comme ça. Elle peut lui vendre comme ça. Mais si lui, il y tient, ses poils, il y tient. Voilà.
Jamais se forcer non plus trop. Écouter l'autre, mais pas voilà. Quelque chose qui nous, vraiment après, nous,
surtout,
nous blesse.
Surtout ouais. Si elle dit que ça la dérange dans tout ce qui est sexe oral, évidemment qu'il suffit qu'elle le fasse plus.
Et
peut-être
qu'il
aura le souhait de faire en sorte d'être plus désirable de ce bien point sûr. De vue-là. Mais peut-être qu'il n'en a pas justement envie et qu'il n'a pas envie d'être l'expression simple de ce qu'elle attend, elle, exclusivement.
Le mot de la fin pour vous, Jimmy.
Non, mais qui se rase, c'est bon, qui nous lâche. Honnêtement, les femmes font beaucoup d'efforts. Elles s'épilent le maillot, elles se maquillent. On lui demande que ça, qu'il fasse un effort et puis
là,
ça va repousser.
Il prend un sabot de sa tondeuse.
J'aime cette dernière émission, Jimmy, bravo.
Voilà. Ben, il prend sa tondeuse, il prend un sabot voilà. Un peu grand et puis il essaie des coupes différentes voilà. Et il s'en amuse. De toute façon, tout ça repousse et ça n'est vraiment pas bien grave.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils. Avant de céder la place à Mathieu Noël, mon équipe et moi-même vous remercions pour votre fidélité tout au long de cette première saison de Sans Rendez-vous. La bonne nouvelle, c'est que nous serons de retour en direct à la rentrée avec la même équipe tous les jours de 15h à 16h. J'en profite également pour remercier tout le cabinet de Sans Rendez-vous. D'abord, Serge Fontaine, notre réalisateur adoré. Évidemment, mon bras droit aussi, notre journaliste de choc, Benjamin Lévesque. Merci Catherine, encore une fois. Et bien sûr, merci à vous, Dr Jimmy Mohamed, pour cette belle saison à vos côtés. Sachez que dès lundi, vous retrouverez Sans Rendez-vous en version estivale avec Anne Le Gall et le docteur Damien Mascret. Toujours de la santé, du bien-être, de la psychologie positive. Et le tout, j'en suis sûre, dans la bonne humeur. Vous ne serez pas dépaysés, croyez-moi. Tout de suite, place à Mathieu Noël et à son équipée sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, mon équipée sauvage, la dernière équipée sauvage de toute l'histoire de l'équipée sauvage, avec un invité exceptionnel, vous. Vous Mélanie et pardon. Tous ceux qui voudront passer dans la rédaction d'Europe 1, tous ceux qui ont participé à cette émission, tous nos journalistes. Vous savez qu'il y a un classement. L'un d'entre eux sera élu meilleur journaliste de l'année avec.
Il y a moyen que je gagne ou pas avec... parce que j'ai jamais participé.
Je vais vous dire, tout est possible puisque je vais peut-être rebattre les cartes. Le classement général va voler en éclats et peut-être qu'aujourd'hui celui qui sortira la meilleure chronique sera élu chroniqueur de l'année.
Bon, écoutez, c'est fabuleux. Moi, je vais quand même tout faire pour essayer de gagner. Je serai là évidemment et vous aussi. Ça promet d'être très chouette. Alors restez sur Europe 1.